L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche, hein, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarca, patrie, patriarca,
patrie. Et donc, nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni mari, ni patron, dans une émission de Sortir du patriarcapitalisme, une critique radiophonique du patriarcat, du sexisme et des oppressions liées au genre et aux sexualités, et ce, dans une perspective intersectionnelle, anticapitaliste et antiraciste. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler d'intersectionnalité avec Raphaëlla et Sophia, qui s'intéressent à ce sujet depuis un certain temps. Donc bonjour, Sophia et Raphaël.
Bonjour. Bonjour.
Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait cette émission? Bon, déjà, parce que c'est un peu dans le sous-titre de cette émission et du coup, il fallait faire un peu une mise au point. Parce que l'intersectionnalité est un mot qui marche très fort, qu'on retrouve un peu partout, des cercles militants, aux institutions internationales, et qui est souvent et ce concept d'intersectionnalité, qu'il soit critiqué ou qui soit brandi comme un étendard, est souvent mal compris, notamment en France, et est identifié à tort à tout un tas de choses. Alors, parfois, ça va être à une théorie antiraciste qui critiquerait le féminisme blanc. Une analyse de l'addition des oppressions ou des discriminations, à la convergence des luttes, à une revendication identitaire des femmes racisées. Voilà, tout un tas d'usages de ce concept d'intersectionnalité qui sont problématiques. Et justement, le but de cette émission, c'est de dégrossir ce concept, de montrer à la fois ce qu'il signifie de manière générale et en même temps toutes les différentes théories de ce concept, toutes les critiques qui ont été faites de ce concept. Et l'idée, ce sera dans cette émission aussi de répondre à certaines critiques, notamment lorsqu'elles sont illégitimes ou basées sur une lecture trop rapide des textes sur l'intersectionnalité. Et puis, dans une dernière partie, on abordera la question des usages militants de l'intersectionnalité. Comment faire un bon usage, entre guillemets, de l'intersectionnalité qui soit très éloigné de ces usages les plus conservateurs ou néolibéraux, quelque chose dont on parlera tout au long de cette émission. Alors, peut-être pour commencer par une définition, ce qui m'a intéressé dans le concept d'intersectionnalité, c'est une théorie ou un ensemble de théories qui permet d'articuler différents systèmes de domination, le racisme, le patriarcat, le capitalisme, sans faire une théorie unitaire où finalement on réduit tout au capitalisme et le racisme et le sexisme s'explique par là, voilà, comme par exemple dans le marxisme de manière générale, ou sans non plus émietter les oppressions en disant que finalement elles n'ont absolument rien à voir et que finalement on peut très bien combattre le patriarcat en étant néolibéral, combattre le racisme en étant pro-capitaliste, ou que finalement la révolution socialiste va résoudre tous les problèmes de racisme et de sexisme. Et du coup, dans ce concept d'intersectionnalité, il me semblait qu'il y avait un entre-deux intéressant.
Oui, je trouve que tu as raison de parler de multiplicité des rapports sociaux dans l'analyse parce que, pour moi, au sens où je l'entends, parler d'intersectionnalité, c'est tout d'abord proposer une analyse sociale qui ne soit pas uniquement unidimensionnelle. Par exemple, tu l'as dit, une analyse marxienne en termes de classe, traditionnellement parlant, mais bien une analyse pluridimensionnelle qui, au contraire, met en avant les dynamiques entre différents positionnements sociaux. Pour prendre un exemple concret, les femmes au sein du mouvement ouvrier au 19e et au 20e siècle, qui se sont battues pour la reconnaissance des interactions entre les rapports sexués et les rapports de classe auxquels elles étaient soumises. Après, au vu de son succès académique, de ses nombreux usages, au sein de différents contextes disciplinaires, historiques, géographiques, militants, etc., il est difficile de proposer une définition de l'intersectionnalité qui soit unique ou unitaire. Et donc, selon moi, c'est d'abord un concept caméléon dont la finalité est donc de montrer la pluralité, l'articulation, l'imbrication des rapports de pouvoir et de domination qui structurent nos sociétés. Et c'est pour ça qu'on trouve toute une série de termes associés au terme intersectionnalité. Donc, par exemple, l'intersectionnalité comme matrice de domination, qui est une définition que Patricia Hill Collins avait proposée, mais aussi en termes de système de domination imbriqué et en interaction, ou alors en termes de consubstantialité des rapports sociaux, qui serait plus orientée vers les théoriciennes françaises de l'intersectionnalité. Et pour finir, une caractéristique qui, pour moi, est aussi un problème de l'intersectionnalité, par-delà le fait que ce soit un terme vraiment protéiforme et pluriel, c'est aussi qu'il n'y a pas de distinction, quand on parle d'intersectionnalité, entre l'objet de recherche et l'outil de recherche. Donc on parle d'intersectionnalité comme une réalité sociale, l'existence de rapports sociaux de domination qui soient imbriqués et donc à analyser, non pas de manière segmentée, mais ensemble, et aussi l'approche ou la méthode qui permet d'analyser cette réalité en termes pluriels, multiples et complexes.
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ton dernier point. Pour moi, ça me fait penser à la différence entre l'intersectionnalité à un niveau micro et à un niveau macro. À un niveau micro, il s'agirait de comprendre la spécificité de l'oppression subie par une personne qui se situerait à l'intersection de plusieurs systèmes de domination. Et au niveau macro, il s'agirait de comprendre les structures, enfin les relations, les interdépendances entre les structures de domination elles-mêmes. Et aussi, je voulais rebondir sur ton premier point, sur le fait que l'intersectionnalité, c'était pas une addition des oppressions. Et quand tu prends un point de vue micro, l'intersectionnalité, effectivement, c'est pas parce qu'une femme racisée, prolétaire, va subir trois oppressions différentes, mais plutôt que ces trois systèmes d'oppression que sont la race, la classe et le genre vont former une espèce de synergie pour que cette femme souffre d'une oppression intersectionnelle, dans le sens où il s'agira d'une oppression résultant de la synergie des trois systèmes de domination.
Oui, ça c'est intéressant, effectivement, l'exemple effectivement des femmes noires prolétaires, et on verra d'ailleurs tout au long de l'émission que c'est notamment de leur expérience que a été tirée la théorie de l'intersectionnalité. Parce que finalement, ce que permet la théorie de l'intersectionnalité, c'est de voir que ces femmes racisées prolétaires ne doivent pas leur situation, leur vécu d'oppression, à, comme dans la théorie marxiste, à une seule oppression qui serait l'oppression de classe, et finalement tout le reste serait secondaire, ne serait pas lié non plus à l'addition de ces trois oppressions, c'est-à-dire qu'elles subiraient l'oppression des femmes blanches plus des hommes noirs, plus des hommes, des ouvriers blancs, mais en fait que les trois systèmes d'oppression s'imbriquent entre eux et font que en fait elle va être encore plus opprimée qu'une femme blanche, qu'un homme noir ou qu'un ouvrier blanc.
Après, je ne sais pas si l'intersectionnalité ça permet de dire qu'elles sont plus opprimées ou pas. Pour moi, l'intersectionnalité ça permet de dire que quand un homme blanc va avoir des rapports avec une femme noire, enfin, un homme blanc bourgeois, mettons, avec une femme noire prolétaire, le rapport unique qu'ils vont entretenir va exprimer une domination de race, de classe et de genre. Et du coup, si par exemple un homme blanc emploie une femme noire, au sein de leur rapport, au sein de leur rapport de travail, des oppressions intersectionnelles vont être trouvées. Mais c'est pas, effectivement, à la fois la femme noire va subir des oppressions de genre vis-à-vis des hommes, de race vis-à-vis des hommes blancs, etc. Mais je pense que aussi un même individu, de fait de l'existence du système de race, de classe et de genre, va opprimer une autre individu, une femme noire en l'espèce, via ce prisme-là.
Oui, pour rebondir sur ce que tu disais, on n'a pas parlé du grand nom de l'intersectionnalité pour l'instant, donc Kimberlé Crenshaw, qui a proposé donc une métaphore de l'intersectionnalité comme un carrefour routier dans lequel les différents axes de circulation représenteraient des axes d'oppression. Et ce qui est intéressant dans la théorie qu'elle propose, c'est qu'elle propose un triptyque. Donc il existe trois formes d'intersectionnalité. Donc celle que tu décris, l'intersectionnalité structurelle qui fait que dans les rapports qu'on entretient, les interactions sociales, mais aussi les politiques publiques, etc., il y a donc une intersectionnalité structurelle qui fait que certaines personnes sont, par exemple, discriminées, non seulement en vertu de leur sexe ou de leur âge, mais aussi de leur race. Par exemple, Crenshaw, elle donne l'exemple des femmes qui cherchent un refuge dans les structures publiques d'accueil pour lutter contre la violence domestique. Et elle dit que ces structures ne sont pas du tout adaptées aux femmes migrantes ou aux femmes qui ne parlent pas la langue, par exemple, du pays. Ensuite, elle propose une définition, et là, on a parlé beaucoup d'oppression et de domination subie, mais elle propose aussi une définition de l'intersectionnalité comme un outil politique, en fait. Donc, comme un moyen de lutter contre l'invisibilisation, on peut utiliser ce terme, de certaines minorités dans des minorités. Donc, elle donne l'exemple des mouvements antiracistes aux États-Unis qui sont des mouvements majoritairement masculins, ou bien des mouvements féministes qui sont des mouvements majoritairement blancs, petits bourgeois, etc., qu'il l'était de manière très majoritaire dans les années 80 et dans les années 90 aux États-Unis. Et donc, elle parle de l'intersectionnalité comme un outil politique pour donner une voix, une figure et de la visibilité à ces minorités dans les minorités. Donc, l'intersectionnalité n'est pas seulement, on en parlait tout à l'heure, une réalité subie, mais aussi un outil qui peut être un outil militant. Et enfin, elle parle d'intersectionnalité représentationnelle, même si elle ne le dit pas dans ces termes. Et donc, avec l'intersectionnalité représentationnelle, elle explique que certaines ou beaucoup de nos représentations, qu'elles soient culturelles, médiatiques, etc., véhiculent des stéréotypes qui sont des stéréotypes intersectionnels puisqu'ils mettent en scène les rapports de pouvoir et de domination entre sexe, classe, race, etc., etc., donc entre différents axes de domination, de privilèges et de désavantages.
Mais finalement, j'ai l'impression que l'intersectionnalité politique et représentationnelle dont tu parlais, telle que théorisée par Crenshaw, ça donne la grille de lecture pour analyser ensuite les oppressions subies. Enfin, finalement, ça permettrait, les deux intersectionnalités permettraient l'une d'être l'outil d'analyse de l'autre.
Oui, le problème, exactement, mais le problème, c'est d'avoir un terme unique pour deux réalités différentes, puisqu'on ne sait plus, quand on parle d'intersectionnalité, si on parle de la réalité de fait ou de l'instrument d'analyse.
Oui, d'ailleurs, c'est une des critiques que fait par Elsa Dorlin, dont on va parler dans la deuxième partie d'émission, justement sur le fait qu'il y a une... Elle dit qu'il y a une forme d'hésitation. Mais après, finalement, c'est à la fois une des faiblesses de l'intersectionnalité et une de ses forces, parce que précisément, elle peut être l'intersection... pas juste des oppressions ou une intersection analytique ou une oppression, ça peut être tout en même temps, quoi.
Et aussi, vu qu'il y a ces dualités, ça a permis à la fois au mouvement afroféministe de théoriser leur intersectionnalité et au mouvement post-structuraliste de théoriser leur facette de l'intersectionnalité. Et finalement, c'est Bilgeux qui parle de cette nécessaire imprécision de l'intersectionnalité qui a justement permis son développement.
Oui, et aussi la popularité du concept.
Oui, même si, il faut le dire, certains auteurs se défendent de l'usage du terme intersectionnalité. Si on pense par exemple à certains auteurs consubstantialistes qui utilisent le terme consubstantialité des rapports de pouvoir et non pas intersectionnalité, donc pour se distinguer et pour formuler une critique à l'égard de l'intersectionnalité. Tout comme certains auteurs, notamment les féministes noires, revendique l'usage de l'intersectionnalité comme un concept qui nécessairement est un concept qui tourne autour de la race. Donc de la race comme catégorie d'analyse, catégorie critique, etc. En expliquant que si on vide l'intersectionnalité de ce concept de race, alors on vide le pouvoir critique du concept d'intersectionnalité lui-même, puisqu'on n'aboutit plus du tout à une critique intéressante des rapports de domination qui structure notre société, quoi.
Et d'ailleurs, par rapport à ça, tout à l'heure, je parlais des usages, disons des groupes qui se revendiquent de l'intersectionnalité, des groupes militants notamment, et des groupes qui s'en défient. Et notamment de la part des groupes qui s'en défient, il y a toujours l'accusation récurrente que non mais l'intersectionnalité en fait ça oublie la classe. Parfois il y a, j'ai trouvé aussi dans certains textes, l'accusation plutôt de théoriciennes que ça oublierait le genre. Ça c'est une critique par exemple qu'on trouve chez des féministes matérialistes québécoises, ou alors qu'on oublie la race. Donc finalement un peu, enfin, l'enjeu autour de l'intersectionnalité, c'est que tout le monde a un peu peur qu'on oublie son oppression, entre guillemets, ou l'oppression qui lui semble la plus importante, la plus déterminante. Peut-être qu'il y a évidemment une partie des théories intersectionnelles qui insistent plus, par exemple celles qui sont peut-être un peu moins critiques du capitalisme, qui vont plus insister sur le genre et la race. Pour ce qui est de l'intersectionnalité, qui est assez proche de la consubstantialité, de la théorie de la consubstantialité des rapports sociaux, eux, ça va plutôt être la race qui va quand même être un peu plus secondaire, et quand même la classe et le genre qui, historiquement en tout cas, vraiment été plus important. Mais en même temps, l'intersectionnalité à laquelle, on se rattache dans cette émission, elle cherche pas à hiérarchiser les différentes formes d'oppression.
Oui, je pense que la manière dont on parle d'intersectionnalité, en tout cas ici et maintenant, c'est aussi comme un terme fédérateur, un peu englobant, pour aussi comprendre non seulement toute l'épistémologie qu'il y a derrière ce concept, mais aussi englober différents usages du terme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on utilise le concept d'intersectionnalité, nécessairement, puisque de par l'histoire et la trajectoire de ce concept, on s'en réfère au féminisme noir qui est à l'origine de ce concept. Et donc, c'est aussi une manière de rendre hommage et aussi de reconnaître toutes les fondations théoriques qui ont été posées par le black feminism, et donc tous les apports théoriques sans lesquels l'intersectionnalité aujourd'hui n'aurait pas existé. Mais évidemment, en parlant d'intersectionnalité, on fait aussi référence à beaucoup d'autres théories qui, indépendamment de ce contexte précis, géographique et historique, se sont développées, par exemple en Europe ou ailleurs, des théories postcoloniales qui ont aussi posé les fondements pour l'analyse intersectionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Oui, exactement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et même quand on pense à l'histoire de l'intersectionnalité ou de l'afroféminisme aux États-Unis, il arrive parce qu'il est en opposition au féminisme blanc et au sexisme noir, noir et blanc, mais aussi noir des Black Panthers, du mouvement des droits civiques. Et du coup, je pense que quand tu penses l'intersectionnalité comme une réalité historique qui est apparue nécessaire d'abord au Combahee River Committee, mais ensuite à toutes les féministes aux afroféministes, ça permet aussi de peut-être repenser entre guillemets l'égalité de tous les systèmes d'oppression les uns les autres, mais comme des réalités également entre guillemets subies par ces femmes-là qui ont estimé nécessaire justement à cette théorisation.
Oui, et justement, puisqu'on parlait du Combahee River Committee, collectif, c'est un petit peu, pas les origines, parce qu'il y a évidemment d'autres groupes ou d'autres penseurs avant qui ont théorisé un peu cette imbrication des systèmes d'oppression. Mais je voudrais juste lire une longue phrase de leur manifeste. La définition la plus générale de notre politique actuelle peut se résumer comme suit. Nous sommes activement engagés dans la lutte contre l'oppression raciste, sexuelle, hétérosexuelle et de classe, et nous nous donnons pour tâche particulière de développer une analyse et une pratique intégrée basée sur le fait que les principaux systèmes d'oppression sont imbriqués. Enfin voilà, la fin évidemment est importante pour notre émission, puisque c'est l'idée que ces féministes noires, lesbiennes et prolétaires subissent donc quatre oppressions, et elles veulent lutter contre ces quatre oppressions, mais elles précisent bien qu'elles n'entendent pas lutter contre ces quatre oppressions séparément, comme des réalités séparées, mais comme des systèmes d'oppression imbriqués. Et justement, puisqu'on arrive sur la question de l'afroféminisme, il faut rappeler que l'afroféminisme a consisté notamment dans une relecture de l'histoire et dans une visibilisation de l'histoire spécifique des femmes noires, en l'occurrence aux États-Unis et pour la majorité prolétaire. Et quand tout à l'heure je voulais dire qu'il y avait une oppression supplémentaire, c'est évidemment pas pour dire qui est le plus opprimé, mais pour dire qu'il y avait quelque chose en surcroît dans l'oppression des femmes noires prolétaires qu'il n'y avait pas dans l'oppression des ouvriers blancs, dans l'oppression des femmes blanches et dans l'oppression des hommes noirs. Et donc pour justement partir de la figure historique qui est étudiée par le black féminisme, la figure des femmes esclaves, en plus de, comme les femmes blanches, de devoir faire le travail domestique, voire faire l'ensemble, disons, du travail domestique, travail sexuel, travail procréatif, demandé historiquement et structurellement par les hommes blancs aux femmes blanches, en plus de subir le travail dans les champs, les humiliations, les persécutions liées à l'esclavage comme les hommes noirs, et en plus d'avoir la condition générale des esclaves, quelle que soit leur race, même si là en l'occurrence c'était des esclaves noirs, il y a par exemple le fait de devoir procréer pour permettre la reproduction du système esclavagiste. Il y a les viols non seulement de la part des hommes noirs, mais aussi de la part de leurs maîtres. Il y a une espèce d'expérience additionnelle de l'oppression, même si j'ai bien conscience que ça n'épuise pas la question de l'intersectionnalité, mais c'était juste pour préciser ce que j'entendais par ce surcroît d'oppression.
Après, moi, je dirais une expérience additionnelle, mais aussi une expérience singulière, dans le sens où même l'oppression subie par des femmes noires vis-à-vis des hommes noirs, l'oppression subie par les femmes noires vis-à-vis des hommes blancs n'est pas la même que celle subie par les femmes blanches vis-à-vis des hommes blancs et par les femmes blanches vis-à-vis des hommes noirs. Donc je pense que même si c'est pas en termes d'addition, en termes de singularité, je pense que c'est important d'insister sur le fait que l'intersectionnalité permet justement l'analyse de la spécificité des expériences, à la fois des expériences vécues et du système de domination, quand on prend en compte les différents systèmes d'oppression de manière synergique.
Moi, je trouvais qu'il y avait une bonne formule pour résumer, un bon triptyque pour résumer cette oppression. Donc une oppression matérielle qui se réfère à l'exploitation capitalistique ou capitaliste. Une oppression corporelle qui se réfère à l'usage des corps et l'exploitation en matière de procréation. Une oppression symbolique, donc l'usage de l'image et de stéréotypes liés à la race, au sexe. On a mentionné la classe, la race, le sexe, mais on n'a pas mentionné l'âge, la religion, etc., etc. Et qui permettent en fait ce triptyque de penser toutes les manières dans lesquelles ces imbrications et ces interactions entre les différents rapports de pouvoir peuvent avoir lieu. Donc pour penser non de manière additionnelle, mais bien de manière interactionnelle.
Et par rapport justement à la question des stéréotypes, on a dit l'intersectionnalité, c'est la spécificité notamment des femmes racisées prolétaires en termes de réalité matérielle, mais aussi en termes de représentation. La représentation idéologique des femmes noires au XIXe siècle et dans une large partie du XXe siècle aux États-Unis, c'est pas la représentation idéologique des hommes noirs plus celle des femmes blanches, mais c'est une spécificité, en l'occurrence on leur dénie tous les traits qui sont accolés à la féminité blanche, la douceur, etc., etc. Et en même temps, c'est très différent des stéréotypes qui sont accolés à l'homme noir, comme barbare, violeur, etc. Il y a vraiment, il y a aussi une spécificité par rapport à ça.
Oui, cette spécificité, elle est très bien théorisée par Bell Hooks dans « Ne suis-je pas une femme ?» où elle accorde tout un chapitre à... Il me semble qu'elle l'appelle « Femme noire et féminité » et elle montre que le mythe de la féminité qui pèse sur les épaules des femmes blanches a été un peu... d'abord collé sur les femmes noires et puis ensuite modifié pour que ça aussi ça colle à leur statut d'esclave qui faisait qu'elles devaient travailler et qu'elles ne pouvaient pas être entretenues par leur mari noir comme les femmes blanches bourgeoises pouvaient à ce moment-là. Et effectivement, comme tu le disais, le mythe de la féminité blanc était complètement incompatible avec les stéréotypes qui pesaient justement sur les femmes noires, le stéréotype de la femme noire... diable, prostituée, ou alors dans une autre matrone. Et finalement, c'était incompatible avec à la fois la femme noire était décrite, quand elle était décrite comme une prostituée avec un désir, une passion sexuelle complètement folle, alors que dans le même temps les femmes blanches justement ne pouvaient avoir de désir sexuel, donc c'était complètement incompatible. Et aussi je trouve que c'est assez intéressant, dans le livre de Bell Hooks, elle souligne qu'à ce moment là il y avait la théorie d'un matriarcat noir, et du coup justement là je trouve que c'est vraiment, on est un peu au cœur de l'intersectionnalité, parce que chez du coup les femmes noires il va y avoir un matriarcat, elles vont dominer quand bien même elles doivent travailler, quand bien même elles sont aussi sous la coupe des violences sexuelles de la part de leur mari, des hommes blancs, etc. Quand tu compares, le matriarcat noir n'a jamais été appliqué aux relations blanches, il n'y a jamais eu de mythe du matriarcat blanc, enfin dans ce système-là, je veux dire.
Oui, et c'est là où on a un peu le lien avec la dimension matérielle, c'est-à-dire que dans toutes ces représentations idéologiques des femmes noires esclaves, il y a une justification. Si on dit qu'elles sont douces et fragiles, elles ne vont pas pouvoir aller travailler dans les champs, donc ça pose un petit peu problème. Le fait de les représenter comme des prostituées, ça va justifier le viol. Enfin, voilà, sans tomber dans une théorie de l'idéologie qui en fait un truc purement fonctionnel, mais on voit quand même qu'il y a un lien évidemment avec les réalités matérielles. Quoi.
Après, le viol des femmes blanches était aussi présent, pour autant elles étaient décrites comme impossible d'avoir du désir sexuel. Donc,
oui.
Justement, là on voit que l'idéologie parfois est indépendante des considérations matérielles.
Ou ça la justifie d'une autre manière, parce que. Ça peut être, là en l'occurrence, la femme blanche purement passive. Enfin voilà. Et peut-être pour revenir justement sur la question du black féminisme et qui est en fait un petit peu le contexte dans lequel est née l'intersectionnalité, est-ce qu'on peut dire encore autre chose ? Peut-être notamment le fait que tout le black féminisme n'est pas intersectionnel.
Ah oui, tout à fait. Quand on lit Angela Davis, Femme, Race et Classe, à la fois c'est fondateur et précurseur de l'intersectionnalité, dans le sens où ça montre les réalités historiques de la différence de vécu des femmes noires, mais à mon sens, de nombreux passages du livre montrent surtout la différence de vécu des personnes noires, dans le sens où elle s'attache à renforcer la conscience de classe noire plutôt qu'à montrer la spécificité des femmes noires. Et à mon sens, il y a un exemple assez impressionnant du livre, c'est la manière dont elle parle de Frederick Douglass, qui est un ancien esclave qui s'est enfui et qui ensuite a été un abolitionniste fervent, et notamment a lutté pour le droit de vote des hommes noirs, mais aux côtés des féministes blanches. Et dès lors que le vote des femmes blanches a été décrit comme impossible, finalement, il a décidé de se réserver la part du gâteau, ce qui est compréhensible, mais en écrivant un article assez violent à l'encontre du vote des femmes, en montrant vraiment la priorité qui devait être donnée au vote des hommes, noirs et blancs. Et Angela Davis justifie complètement son comportement et ne cite même pas l'article dans lequel il adresse quand même des remarques relativement violentes vis-à-vis de la nécessité du vote des femmes. Et quand on compare cet événement historique avec la manière dont, avec l'historiographie de Bell Hooks, où là justement elle souligne que finalement l'expérience de Frederick Douglass faisait qu'il effectivement privilégiait ses intérêts, et que justement il se positionnait contre les intérêts des femmes noires, à mon sens son analyse est bien plus intersectionnelle, ou en tout cas bien plus nécessaire à la naissance ensuite de l'intersectionnalité, dans la mesure où elle montre vraiment la spécificité du vécu des femmes noires.
Après, ce qui est intéressant avec Angela Davis, c'est sa contribution aux Critical Race Studies aux États-Unis. Et bien sûr, le livre de Bell Hooks est intéressant puisqu'il fait référence à l'histoire de Sojourner Truth, qui était une esclave noire et qui, en 1851, a fait un discours devant des femmes blanches qui voulaient lui couper la parole parce qu'elles étaient choquées qu'elle puisse intervenir, et donc ces mots d'introduction, c'était « ne suis-je pas une femme ?» puisque en tant que femme noire, elle n'avait pas le droit à la représentation et pas le droit à la parole. Et donc ce slogan en fait a été repris par Bell Hooks pour montrer donc ce que tu décrivais, toute l'intersectionnalité, les enjeux intersectionnels des femmes noires, notamment aux États-Unis. Donc juste pour resituer un tout petit peu le contexte, on a beaucoup parlé des États-Unis, et en effet, depuis les années 60, aux États-Unis, beaucoup de mouvements féministes se sont intéressés aux rapports sociaux entre race, sexe et classe, et ont en particulier dénoncé l'homogénéisation de la question dite des femmes, donc des femmes blanches, puisque présentées par des féministes blanches. Et donc, tu en parlais aussi, les alliances douteuses du féminisme blanc avec des mouvements racistes, ainsi que l'exclusion des questions des femmes, vice-versa, donc des mouvements pour les droits civiques et antiracistes aux États-Unis, donc, qui contribuent à l'invisibilité des minorités dans les minorités. Et ensuite, dans les années 70-80, les femmes racisées se sont constituées en tant que mouvement social. On a beaucoup parlé des femmes noires, mais il y avait aussi des mouvements de femmes latinas, chicanas, qui sont des femmes mexico-américaines. Et donc beaucoup, beaucoup d'auteurs, par exemple Gloria Hull, Bell Scott, Smith, Moraga, etc., etc., ont publié des livres, des discours de femmes racisées et des analyses des conséquences de l'esclavage, des colonialismes, etc., sur leurs conditions d'existence en tant que femmes racisées. Et le passage sous silence au sein des différents mouvements sociaux identitaires ou de revendication de ces conditions d'existence en tant que femmes racisées. Et aussi des accusations de sabotage, des difficultés à être représentées, à avoir une voix, le manque de solidarité entre ces différents mouvements, etc. Et donc ce qui est intéressant là, c'est que on commence en fait par l'appropriation militante de ce concept à en venir à la question de la solidarité des luttes sociales et de l'interdépendance de ces questions de domination, de leur imbrication. Et donc il y a toute une théorisation qui commence à exister avec des essais, différents essais publiés dans les années 70 et 80. Donc tu as mentionné le Combahee River Collective, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Et ce qui est intéressant de mentionner, c'est aussi que c'était pas seulement aux États-Unis, mais ce sont des mouvements qui ont vu le jour et qui avaient aussi plusieurs épicentres. Donc pas seulement les États-Unis, mais aussi beaucoup d'autres endroits dans le monde. Et je pense notamment aux mouvements post-colonialistes et post-coloniaux.
Oui, ça c'est important que tu le précises, parce que c'est vrai que effectivement l'intersectionnalité, enfin le concept a été développé par Kimberlé Crenshaw. C'est vrai qu'il est historiquement associé au féminisme noir, mais effectivement on ne peut pas l'y réduire. Et il y a deux numéros des cahiers du CEDREF, donc qui est donc une revue féministe, qui justement s'attache aussi à montrer voilà le développement des théories intersectionnelles en Amérique latine. Donc il y en a un qui est voilà sur toutes les théories des féministes chicanas aux États-Unis, et puis un des derniers numéros qui s'appelle Intersectionnalité et colonialité, justement, qui montre où il y a plusieurs articles qui parlent du développement de l'intersectionnalité au Brésil, avec donc la spécificité du féminisme noir au Brésil. Enfin voilà, c'est effectivement important de le préciser. Et après, il y avait une autre chose qui me faisait penser, c'était finalement l'intersectionnalité, elle permet de comprendre et de combattre des comportements qui, si on est dans une grille de lecture exclusivement en termes de classe ou exclusivement en termes de genre, exclusivement en termes de race, paraissent incompréhensibles. Donc le comportement des féministes blanches, le comportement des Black Panthers et des hommes noirs paraît incompréhensible si on pense spontanément à les Afro-Américains, de par leurs conditions de race, ils ont la même expérience, et du coup, pourquoi est-ce que les hommes noirs se comportent de telle façon, et si les femmes vivent toute la même oppression, pourquoi est-ce qu'elles se comportent, enfin pourquoi est-ce que les femmes blanches en fait invisibilisent et excluent les femmes noires de leur mouvement et de leurs revendications. Ce qui fait que on a beaucoup parlé de l'intersection entre guillemets des super opprimés, mais disons des femmes racisées prolétaires. Mais il y a évidemment une intersection des supradominants, donc les hommes blancs capitalistes. Mais il y a plein de situations intermédiaires qui vont faire que l'exemple de Frédéric Douglas est hyper parlant. Effectivement, sur le plan de la race, il est dominé. Et donc il va chercher à se mobiliser, à lutter contre le racisme. Mais sur le plan du genre, il est dominant, et donc il n'a pas les mêmes intérêts que les femmes noires. Et donc là, en l'occurrence, quand il va falloir s'agir de prioriser entre le vote des femmes et le vote des noirs...
Des hommes noirs.
Le vote des hommes noirs, en l'occurrence, il va se dire, on va prioriser sur le vote des hommes noirs, avec un argumentaire qui est exactement celui de tous les opposants au suffrage féminin, c'est que finalement, les hommes noirs vont représenter les femmes noires, et donc finalement, les femmes noires n'ont pas vraiment tellement besoin du suffrage.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis, ça renvoie à une expression qui est traduite de l'anglais pour donner « course aux oppressions » ou « course à qui est le plus opprimé ». Donc, en fait, une course à la reconnaissance publique des conséquences de telle ou telle oppression fondée sur le sexe, la race, etc. etc. Donc, cette course aux oppressions, nécessairement, elle s'exprime en termes de hiérarchie entre différents mouvements sociaux. Et c'est là que les théories militantes du CRC, du Combat et River Collectif, par exemple, sont intéressantes, puisque elles prennent le parti du plus petit dénominateur commun. Donc elles prennent le parti de « si vous nous libérez, nous, femmes, descendantes d'esclaves, prolétaires, racisées, etc., alors vous libérez tout le monde ». Donc on prend le parti d'une stratégie anti-oppression ou d'une stratégie de lutte qui ne puisse pas être unidimensionnelle, mais qui, si elle est anticapitaliste, elle doit aussi être antiraciste et aussi féministe, etc. etc. Donc en se prenant comme dénominateur commun, on met fin, ou en prenant cette oppression comme dénominateur commun, on met fin à la hiérarchisation des rapports de pouvoir.
Et c'est hyper intéressant justement ce que dit le Combat River Collective, parce qu'en fait ça amène à repenser de manière radicalement nouvelle une vieille question des théories révolutionnaires, qui est la question du sujet révolutionnaire. Et c'est vrai que si on regarde le sujet révolutionnaire dans l'imaginaire de tous les mouvements d'extrême gauche, de l'anarchisme au marxisme, c'est toujours des hommes blancs ouvriers. Or, effectivement, sur le plan de la classe, effectivement, ils sont effectivement opprimés, mais sur le plan du genre et de la race, au contraire, ils ne peuvent pas être des sujets révolutionnaires parce que ce sont des sujets qui ont des intérêts matériels, même si on peut trouver d'autres formes d'intérêts à sortir du patriarcat pour un homme ou à sortir du suprémacisme blanc pour un blanc, mais toujours est-il qu'ils vont plutôt avoir tendance, de par leur position sociale, à être extrêmement conservateurs et contre-révolutionnaires sur la question du genre et de la race. Et du coup, c'est vrai que finalement, on pourrait dire, est-ce que finalement, s'il fallait une figure du sujet révolutionnaire, est-ce que ce ne serait pas plutôt les femmes racisées, prolétaires ? Et après, on peut évidemment rajouter aussi d'autres choses, la dimension aussi de l'orientation sexuelle, et en l'occurrence, effectivement, pour le Combat River Collectif, c'est le cas. Après, la question de l'intersectionnalité ferait que, ce serait... le sujet révolutionnaire, enfin les sujets révolutionnaires par excellence, mais en même temps, évidemment, il y a toutes ces strates intermédiaires dont on a parlé qui vont avoir plus ou moins intérêt à un bouleversement, une transformation de l'ordre social. Enfin, il n'y a pas qu'un sujet révolutionnaire, mais disons que, c'est complètement abusif d'avoir cette représentation toujours aujourd'hui du sujet révolutionnaire comme étant l'homme blanc prolétaire, sachant que finalement, lui, il a intérêt à une seule révolution sur beaucoup. Et encore, est-ce que c'est possible vraiment de faire qu'une seule révolution, sachant que les systèmes d'oppression sont imbriqués? Après ce premier tour d'horizon sur l'intersectionnalité, nous allons faire une pause musicale. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Lurleen Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama has got me so upset, and Memphis has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn.
hound dogs on my trail. Little school children sitting in jail. Black cat crossed my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. 'Cause I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about do. I've been there, so I know. You keep on saying go slow. Well, that's just the trouble. Washing the windows. Picking the cotton. Nothing but rotten. Too damn lazy. Thinking's crazy. Where am I going? What am I doing? I don't know. I don't know. Just try to do my very best. Stand up, be counted with all the rest. 'Cause everybody knows about me.